résume rapidement. Il y a là, dans cette vision du prophète Daniel, essentiellement, un bélier et un bouc. Mais, Francis, l'interprétation est tout à fait aisée, puisque au verset 20 du chapitre 8, il nous est indiqué que le bélier est le royaume des Mèdes et des Perses. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc tout ça c'est bien simple, puisque c'est dit par la parole elle-même. Le bélier, c'est le royaume des Mèdes et des Perses, le second royaume, celui qui vient après l'empire babylonien de Nebuchadnezzar. Et le bouc, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire le roi de l'Empire des Grecs, et la grande corne, c'est le premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Alors, nous avons vu l'histoire d'Alexandre le Grand, comment il a parcouru la terre véritablement en volant sur la terre, comme cela nous est dit dans ce chapitre, c'est-à-dire il allait avec une rapidité extraordinaire, étonnante, pour les moyens de son temps, qui étaient, mettons, la cavalerie, essentiellement la cavalerie, et les chars. Et il avait pu parcourir des milliers de kilomètres pour aller faire des conquêtes, même jusque dans l'Inde. Jusque dans l'Inde. Donc, vous voyez comme cette prophétie, toutes ces prophéties, se sont déjà en partie réalisées. Et je dis en partie parce que ce qui reste à réaliser est peut-être à considérer comme le plus important, évidemment, puisque c'est tout ce qui va déboucher sur le royaume éternel, sur le royaume de Dieu, mais toute la partie historique détaillée est déjà réalisée. Déjà réalisée. Alors, le bouc devient très puissant. Le bouc, c'est donc l'empire grec, devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. La grande corne se brisa, nous avons vu que la grande corne, c'était le premier roi, c'est donc Alexandre le Grand. Tout ça est très facile. Alexandre le Grand meurt à 33 ans, et quatre grandes cornes s'élèvent pour le remplacer aux quatre vents des cieux. Je vous ai dit que ces quatre grandes cornes, c'étaient les quatre parties qui sont survenus du démantèlement de cet empire d'Alexandre, ce vaste empire d'Alexandre, et j'ai désigné ces parties, à savoir la Thrace et la Bithynie d'une part, que commandait le général Lysimaque, la Macédoine et la Grèce, aux mains du général Cassandre, la Syrie, la Babylonie et la Perse, aux mains du général Séleucus, et l'Égypte, la Palestine et l'Arabie aux mains de Ptolémée, général Ptolémée. Alors, deux de ces généraux, Séleucus et Ptolémée, vont fonder chacun leur dynastie. La dynastie des Séleucides pour Séleucus et la dynastie des Ptolémée pour l'Égypte essentiellement. L'Égypte avec son prolongement vers l'Arabie et la Palestine. Alors, la petite corne, je vous ai dit que c'était Antiochus Épiphane.
Antiochus, c'est donc le nom, ça va être le nom de 13 rois de cette dynastie. Et celui-ci était Antiochus IV. Antiochus IV, il a régné de 175, moins 175, à moins 164.
Et c'est lui qui est ici la petite corne. Alors, chose extraordinaire, c'est que la petite corne désigne deux personnages extrêmement distants dans l'histoire, l'un de l'autre, des siècles et des siècles les séparent, et cependant, ils ont entre eux un rapport de similitude dans leur attitude et surtout dans leur action contre ce qui est appelé le peuple des saints, contre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, au moment avant l'arrivée du Seigneur Jésus, c'était évidemment le peuple d'Israël. Antiochus Épiphane, je vous en dirai quelques mots. Épiphane, je l'ai dit, je crois, voulait dire, signifie l'illustre résistant, était donc le roi de Syrie, descendant de Séleucus, du général Séleucus, et ayant place dans la dynastie des Séleucides, on ira jusqu'à, d'ailleurs, Antiochus, j'ai mis Antiochus, j'ai mieux mettre Antiochus,
Antiochos. On dit souvent Antiochus, mais il est préférable de dire Antiochos, tous les autres rois se sont d'ailleurs bien appelés Antiochos. Alors Antiochos, on est allé jusqu'à Antiochos 13.
Et cet Antiochos 4 était un homme énergique, très intelligent, d'un caractère assez compliqué, et fanatiquement dévoué à ce qu'on dirait aujourd'hui la culture grecque ou l'hellénisme. Il se faisait appeler Épiphane le divin. Le divin. Ah, tous ceux qui ont lutté contre Dieu, qui ont été des ennemis acharnés de Dieu et naturellement du peuple de Dieu, que ça s'appelle l'Église ou que ça s'appelle Israël, tous ceux-là se sont toujours déifiés. Vous pouvez le remarquer dans toute l'histoire, c'est une règle générale. Ils se sont tous déifiés. À notre époque, prenez un Hitler, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Il était, pour ainsi dire, déifié. Hein, et il voulait même faire ce que peut faire un dieu, puisqu'il voulait créer un empire de 1000 ans. Il voulait avoir son millénium. Il se faisait donc appeler Épiphane le divin et se donnait pour l'incarnation de Zeus olympien. Zeus olympien qui était le dieu de la foudre, qui détrôna Cronos et s'installa sur l'Olympe. Bon, tout ça n'est pas bien intéressant. Et les Romains l'assimilèrent à Jupiter, c'est pourquoi on dit quelquefois qu'Antiochus, en latinisant son nom, se donnait pour Jupiter, ce qui n'est pas exact, il se donnait pour Zeus olympien. Et Antiochus a été, pendant la première partie de son règne, tolérant à l'égard des cultes. Il a été compréhensif, tolérant, comme sera l'Antichrist au début de son règne. Mais il devint tout à coup farouchement intolérant à l'égard des Juifs, lesquels ne consentaient pas, bien entendu, à adorer Zeus. Et en 168 avant notre ère, il fit envahir Jérusalem par son armée, l'autel du temple fut souillé par le sacrifice d'un porc, animal éminemment impur aux yeux des Israélites. Il fit donc sacrifier un porc sur l'autel, et il suspendit la pratique des ordonnances de la loi de Moïse. Il fit détruire les exemplaires de la loi, l'observation du sabbat fut interdite, ainsi que la circoncision et la possession des écritures, possession des rouleaux qui constituaient l'écriture. C'est certainement pourquoi beaucoup de juifs, à ce moment-là, allèrent cacher des rouleaux, et c'est de là que viennent certainement certains des rouleaux de Qumran, les manuscrits de la même ordre. Enfin, un autel à Zeus olympien fut élevé dans le temple avec ordre pour le peuple d'adorer ce dieu. Là, nous étions à l'abomination de la désolation, selon l'expression de l'Écriture, et cette expression, attention, elle est reprise par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, elle est importante, c'était l'abomination de la désolation. que on oblige dans le lieu même que Dieu avait choisi à Jérusalem sur le terre-plein du temple, là où était le temple, dans le temple, que l'on oblige les Juifs à adorer un faux Dieu dont la statue avait été érigée là, n'est-ce pas? Ça, c'était l'abomination de la désolation. Vous voyez donc de quoi est faite cette abomination de la désolation, de ce qui constitue l'apostasie. L'apostasie, cher ami. Soyons bien, n'est-ce pas, sensibles à ça. La corruption, voyez-vous, des mœurs, c'est quelque chose, évidemment, de hautement réprouvé. Mais là est l'abomination la plus grande, celle qui atteint le plus directement Dieu. Pour les Juifs, il fallait opter ou bien pour la profanation du temple et l'adoration des idoles, ou bien pour la mort. Et il y en eut beaucoup qui refusèrent l'abomination et qui périrent. Ils périrent ceux-là pour leur foi. Puis, ce fut ensuite la révolte des Maccabées qui mit fin à cela. Et le temple fut purifié, mais nous allons voir comment. Alors, vous voyez que cette petite corne, une petite corne, n'est-ce pas, désigne Antiochus. Et la petite corne, nous l'avons vu aussi dans le chapitre 7, désigner incontestablement l'Antichrist, puisque, vous voyez au verset 11 du chapitre 7, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, il s'agit de cette petite corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. » Et cette petite corne est portée par cette bête étrange, terrible, qui symbolise le quatrième et dernier royaume. Au verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber, elle c'est la petite corne, donc c'est Antiochos, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Elle fit tomber une partie de l'armée des cieux. Par cette expression, nous pourrions comprendre les anges, mais nous ne verrions pas très bien comment Antiochos pourrait faire ce que Satan avait déjà fait et faire tomber une partie des anges, un tiers des anges. Il s'agit ici non des anges ou des étoiles, mais du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël, au verset 24, « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » Il ne peut pas s'agir d'autre chose que du peuple des saints. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Une partie de cette armée, parce que certains juifs succombent, d'autres, n'est-ce pas, préfèrent la mort plutôt que de tomber dans cette idolâtrie. Fouler aux pieds, faire tomber certains juifs. Voilà ce que ça signifie, qui renièrent leur Dieu et qui acceptèrent l'idolâtrie. Le chef de l'armée, c'est au verset 11, l'ange qui est devant la face. Lisons Ésaïe 63, 9. Ésaïe 63, 9. Dans toutes leurs détresses, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Alors là, n'est-ce pas l'ange devant sa face qu'il a lui-même racheté dans son amour et sa miséricorde, voyons tout de suite, n'est-ce pas, apparaître la parole de Dieu qui plus tard sera incarnée, mais qui est le Messie à venir. L'ange devant la face. Antiochos arrête l'Holocauste, qui était bijournalier. Le sacrifice perpétuel, c'est l'Holocauste, qui devait être fait deux fois par jour. Il dépouilla, renversa le lieu de ce sanctuaire, il dépouille le temple et renverse le lieu du sanctuaire, en effet, n'est-ce pas ? Il saccage l'autel, et cela nous est décrit dans le premier livre des Maccabées, chapitre 1, versets 21 à 25, mais nous ne l'avons pas ici, pour nous, il est un apocryphe de l'Ancien Testament, mais il est tout de même utile comme livre historique. Au verset 12, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. L'idolâtrie qui est substituée à l'adoration du vrai Dieu, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre. Elle jeta la vérité par terre, elle substitue, n'est-ce pas, l'idolâtrie à l'adoration du vrai Dieu, et la corne réussit dans ses entreprises. Elle réussit dans ses entreprises, c'est-à-dire que Antiochos put aller au bout de ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas, souiller le temple, détruire le culte du vrai Dieu, il réussit. Évidemment, cela peut nous étonner qu'il n'ait pas été empêché de réussir dans ses entreprises. Il y a un auteur du nom de Newton qui a dit ceci, je vous cite ce qu'il a dit, « Dieu laisse aller le diable jusqu'à la longueur de sa chaîne ». Hein, c'est-à-dire que il lui laisse, n'est-ce pas, une latitude, mais pas plus loin que la longueur de sa chaîne. Les versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ah, là. Nous tombons sur un passage que les adventistes du septième jour ont particulièrement exploité et dont ils ont fait toute une théorie, on peut presque dire toute une théologie. Mais la chose ici est plus simple, elle se complique par la suite. Le temps pendant lequel le sanctuaire et l'armée, c'est-à-dire le peuple des saints, seront foulés, sera donc de 2300 soirs et matins. Alors, on peut comprendre 2300 soirs et matins, cette expression signifiant jours, 2300 jours, ou alors 2300 soirs et 2300 matins, ce qui ferait 1150 jours, n'est-ce pas ? Alors, on commence par prendre ces deux possibilités, voyez-vous. Est-ce qu'il s'agit vraiment de soir et matin? Cependant, s'il s'agissait vraiment ici de soir et de matin, c'est-à-dire ensemble de jours, n'est-ce pas, entiers, pourquoi ne pas avoir 10 jours? Peut-être pour qu'on ne confonde pas avec des années, mais... De toute manière, n'est-ce pas, cela pose un problème. Et s'il s'agit des soirs et des matins, 2300 soirs et matins ensemble, c'est-à-dire 1150 jours, la moitié, n'est-ce pas, cela peut très bien s'expliquer, étant donné qu'il s'agit du sacrifice perpétuel, c'est-à-dire de l'Holocauste qui était présenté tant le matin que le soir. Et l'expression « soir » et « matin » s'adapte précisément à cette loi qui voulait que dans le temple on offrit un sacrifice le matin, un holocauste le soir. Et cela fait une durée de 1150 jours, c'est-à-dire 3 ans, 2 mois et 10 jours en calculant avec des années de 360 jours, Si on calcule avec des années de 365 jours, on a 3 ans, 1 mois et 25 jours, et là on arrive sur une durée que l'on retrouve dans l'histoire, et notamment dans le livre des Maccabées, et c'est justement ce qu'a duré la suppression de l'Holocauste par le fait d'Antiochos. Ensuite, après ces 1150 jours, enfin, de tout sens, ça fait 1150 jours. Ça, peu importe qu'on le traduise d'une manière ou de l'autre, en années, mois et jours, ça fait 1150 jours. C'est exactement ce qu'a duré la suppression de l'Holocauste. Nous avons donc déjà quelque chose là, n'est-ce pas? Puisque nous voyons que la petite corne ici, c'est manifestement Antiochos, puisque ça vient du bélier, le bouc qui était l'empire grec, hein, la grande corne qui s'est brisée, c'était Alexandre, les quatre cornes qui s'élevèrent pour la remplacer, c'était les quatre parties de son empire que je vous ai nommées, et puis dans ces quatre parties, une, n'est-ce pas, qui est particulièrement en évidence, on verra l'autre après, l'Égypte, n'est-ce pas, avec la dynastie des Ptolémées, mais là, n'est-ce pas, la partie qui est entre les mains du général Séleucus, et qui donne lieu à une dynastie, et dans cette dynastie, là, s'élève une petite corne, c'est Antiochos, et il a en effet réalisé tout ce que le prophète Daniel disait ici. Il l'a réalisé longtemps après, puisqu'ici le prophète Daniel parle la troisième année du règne de Belshazzar, et j'ai dit que c'était en l'an 538. Moins 538, et Antiochos arrive à moins 175, donc Daniel a parlé en moins 538, et ces événements se sont produits en moins 100, exactement 168. C'est en 168 surtout que Antiochos s'est jeté sur Jérusalem et a voulu imposer toutes ces horribles mesures au temple et en supprimant le culte hébraïque. Alors nous avons cela, mais nous allons voir que nous n'en avons pas fini avec les 2300 jours. Tout comme la petite corne est à la fois Antiochos, nous voyons ici, mais que la petite corne a déjà été un autre personnage aussi, qui lui apparaît dans des temps beaucoup plus éloignés, de même, les 2300 soirs et matins sont là, ont là un premier accomplissement, mais nous allons voir qu'ils en auront un second. Voilà une particularité de la prophétie biblique. Presque toujours dans les grandes prophéties, nous voyons deux accomplissements, quelquefois trois. Alors ça, si on ne le sait pas, ben évidemment, on va être en difficulté, n'est-ce pas, pour comprendre la prophétie. Et la seule image qu'on puisse en donner, n'est-ce pas, est celle-ci, étant donné que il y a toujours dans l'histoire qui a été annoncée par la prophétie, il y a toujours des types. Il y a des hommes qui sont types de Christ, n'est-ce pas, comme par exemple Joseph, par exemple David, n'est-ce pas, Salomon pour une part aussi, n'est-ce pas? Il y a toujours des hommes qui, dans une certaine partie de leur action, de leur service pour Dieu, ont été typifiés, comme on dit, n'est-ce pas, Christ. Et il y a des événements qui ont typifié d'autres événements, c'est-à-dire qui les ont annoncés, qui ont été de même sorte, de même nature. De même nature. Et pourquoi cela? Eh bien, écoutez, prenons des comparaisons. N'est-ce pas, quand dans le désert le vent souffle sur le sable,
que va-t-on voir? On va se voir peut-être des lunes se former, mais on va voir, n'est-ce pas, à la surface du sable, une sorte d'ondulation.
On va même trouver des phénomènes extraordinaires comme la rose des vents, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous en avez vu? Hein? La rose des sables, oui, la rose des sables, pardon. La rose des sables, ça, vous en avez vu certainement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un travail essentiellement du vent. Alors, le vent, quand il souffle dans une direction, n'est-ce pas, va nécessairement organiser quelque chose dans cette direction. De même que l'eau, quand elle coule, n'est-ce pas, toujours au même endroit, va aussi produire certains effets qui vont être dirigés.
Alors, il y a cela, n'est-ce pas, le vent, je vais le comparer, si vous voulez, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu, qui se sont formés là et qui ont disparu.
N'est-ce pas?
La déroule, ils étaient trop loin du bord, vraiment, n'est-ce pas? Du bord, là, de l'endroit où l'eau s'arrête, n'est-ce pas? Et alors, il y a eu là, n'est-ce pas, des rouleaux tout semblables à celui-ci, annonçant et préparant celui-ci. Et cela parce que il y a un phénomène, là, mettons, disons, vent aussi, n'est-ce pas, qui souffle dans cette direction. Il y a aussi la puissance de l'eau qui vient de très loin, n'est-ce pas, et qui pousse les flots vers le rivage. Il y a donc une action en direction qui est donnée, n'est-ce pas. Et alors, il y a des vagues qui sortent, des petits rouleaux, et puis là, le dernier grand rouleau, eh bien, il en est ainsi dans l'histoire prophétique. Nécessairement, l'Esprit de Dieu soufflant, il est nécessaire que l'on trouve, par exemple, n'est-ce pas, un Joseph qui va être fidèle, qui va être béni de Dieu, et qui va, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va faire, déjà, comme annoncer celui qui va venir pour sauver. Hein, Joseph, de dire à ses frères qui ont peur de lui, qui ont peur surtout que, étant donné le poste qu'il occupe et la puissance qui est la sienne en Égypte, qu'il se venge d'eux, et il va leur dire qu'il n'entend pas du tout leur faire le moindre mal, n'est-ce pas, mais que Dieu, il est conscient que Dieu l'a placé là pour être en bénédiction à beaucoup. Pas, voyez-vous, ben, on sent déjà en lui, n'est-ce pas, voyez-vous, dans sa pensée, dans ce qu'il va faire, dans son action, n'est-ce pas, on voit déjà la mission du Sauveur, on voit déjà, n'est-ce pas, venir le Sauveur. Vous voyez, c'est un petit rouleau, c'est une petite vague, n'est-ce pas, qui vient après la grande. Alors là, ici, s'il s'agit du Sauveur, n'est-ce pas, tous ceux qui ont été des types ont été, si vous voulez, les petits rouleaux, et le grand rouleau, ça a été l'avenue du Sauveur. Mais dans les événements historiques, il en est ainsi. Il arrivera donc à la fin un grand événement, ce sera l'empire de l'Antichrist qui durera peu de temps, ce sera alors les jugements de Dieu et la fin de cette économie, la fin de ce siècle-ci. Mais avant cela, n'est-ce pas, il y aura eu un peu comme des événements qui auront servi de prélude, de prémisse, parce que ils étaient provoqués par la même force, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne l'Antichrist, le vent qui souffle, c'est celui de Satan. Hein? C'est l'esprit de Satan. Et l'esprit de Satan, lui aussi, va provoquer les mêmes effets. Et c'est assez clair dans notre société moderne, enfin, où nous retrouvons grossi, amplifié, tout ce qu'on a trouvé autrefois, tout ce qu'on a vu autrefois, à une échelle moindre, n'est-ce pas? Vous voyez, tout s'est amplifié, n'est-ce pas? Le vent de Satan souffle aussi sur ce monde. Et puis nous arrivons à ce que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire, n'est-ce pas, cet athéisme désordonné, cet athéisme même irrationnel, absolument irrationnel,
mais servi par un intellectualisme dont on fait vraiment aujourd'hui une idole. La science est idolâtrée, Jean Rostand l'a dit. Alors, ensuite, n'est-ce pas, cette corruption. La corruption qui vient, mais tout ça s'est vu dans le passé de l'histoire, n'est-ce pas? Les événements se reproduisent toujours les mêmes, mais s'amplifient au fur et à mesure qu'on arrive à la fin des temps. Alors, cet Antiochos a été, cette petite corne, n'est-ce pas? Eh bien, il a été une apparition vraiment caractéristique, extraordinaire même, de l'Antichrist. Qui va faire plus, qui va faire, si je puis dire, mieux encore, mais... dans le même sens et par les mêmes moyens. Alors, les 2300 soirs et matins vont revenir aussi. Continuons notre chapitre 8. Verset 15. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui... avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait les cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes que je vous ai cités, n'est-ce pas ? Vous citez les quatre généraux, quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Cela s'est vérifié déjà dans l'histoire. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Ça, c'est la petite corde, c'est Antiochos. Vous voyez que la petite corne, eh bien, puisque nous sommes ici dans l'explication que l'ange donne à Daniel de la vision du bélier, du bouc et des quatre cornes et de la petite corne. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Là, nous avons quelque chose, évidemment, dont la compréhension est assez délicate, mais tenons compte d'une chose, n'est-ce pas, de la concision des Écritures. La concision des Écritures est souvent pour nous un obstacle à la compréhension, parce qu'il n'y a pas de fioriture, n'est-ce pas, et c'est dit, n'est-ce pas, net avec les mots qu'il faut, sans plus. Il y a un temps marqué pour la fin, c'est-à-dire la fin d'une période redoutable qui constitue un type de la fin dernière, toute dernière, de la fin absolue. C'est le terme de la colère de Dieu contre son peuple infidèle. Après cette fin, il n'est pas ici question du royaume éternel. Attention, n'est-ce pas ? Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un terme marqué pour la fin. Et alors, cette fin, ce sera la fin de la colère contre le peuple d'Israël, la fin de la colère contre le peuple d'Israël, mais ce ne sera pas encore la grande fin, puisque il n'y est pas question de l'établissement du royaume éternel. La force du roi impudent lui vient de l'extérieur, n'est-ce pas ? Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Alors donc, si c'est pas par sa propre force, c'est par une autre force, et cette force est diabolique. Déjà donc, Antiochos fut vraiment déjà un homme du péché, un émissaire de Satan, un homme actionné par Satan, rendu fort par Satan, comme le sera l'Antichrist. L'explication reprend l'histoire au bélier, n'est-ce pas ? Voyez là, versets 20 et 21, bélier, les Mèdes et les Perses, aux conquêtes d'Alexandre le Grand, le bouc, aux quatre royaumes qui se forment du démantèlement de l'Empire d'Alexandre, et puis nous arrivons à la petite corne, au verset 23. Au verset 23, n'est-ce pas, et 24, nous arrivons à la petite corne qui renverse, elle, trois rois et qui tend à reconstituer le royaume d'Alexandre le Grand. Et c'est elle qui va détruire le peuple des saints. Mais au verset 26, au verset 26, nous avons quelque chose de particulier. Ce verset revient à la vision des soirs et matins qui est dite ici véritable. La vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Alors, elle est véritable. Ce qui veut dire, dans l'hébreu particulièrement, elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir certainement. Bon, bien sûr, tout doit s'accomplir, mais là, c'est une accentuation, n'est-ce pas ? Elle est véritable, elle va s'accomplir. Premier accomplissement. Pour toi, tiens secrète cette vision. Il faut de plus en conserver la mémoire particulièrement. Dans la prophétie, donc, il faut particulièrement conserver la mémoire de cette vision des soirs et des matins qui n'est qu'une partie de la vision que Daniel nous raconte dans ce chapitre. Il faut en conserver la mémoire comme un élément prophétique enveloppé de mystère. Tiens secrète cette vision. Oh, tiens-la secrète, cette vision. Elle se rapporte à des temps éloignés. Ah, alors là, ce n'est plus l'accomplissement qui est signalé par le mot véritable, n'est-ce pas ? C'est un autre accomplissement beaucoup plus éloigné. Si bien que ces 1150 jours ou 2300 soirs et matins, n'est-ce pas, qui déjà ont eu une première application, et ça c'est tout à fait vérifiable dans l'histoire, eh bien, ils sont à conserver. Là, cette prophétie des chiffrés n'est pas à abandonner parce qu'il y a eu un premier accomplissement. Non, au contraire, il faut la tenir secrète. Il y a encore un mystère qui est accroché à cette partie de la vision. Il faut le garder jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura donc quelque chose qui va correspondre à ces 2300 soirs et matins. Ce que nous verrons après.